partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Paul Nathan au micro de IDFM Radio avec Sabrina à la technique. Bonjour Sabrina. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez sur IDFM Radio. Merci d'avoir choisi notre antenne et d'être fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, au sommaire de l'économie en direct, nous avons trois invités de secteurs très différents. Nous recevons Sandrine, alors j'espère que je vais pas écorcher votre nom, Mucianez.
C'est parfait, bonjour Paul.
Bonjour Sandrine, donc dirigeante fondatrice d'ISO, qui est un centre d'affaires. François Housseau, bonjour François.
Bonjour Paul.
Dirigeant fondateur de Lucky Lost, qui se propose de protéger vos objets avec un QR code. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Et Xavier Menuet.
Bonjour à tous.
Bonjour Xavier. Chef d'entreprise qui dirige deux sociétés dans le bâtiment, BMG et FADEM. Donc nous allons démarrer avec Sandrine. C'est plus simple de dire Sandrine. Donc d'ISO. Et la signification des lettres, Sandrine, c'est...
Alors, ISO veut dire Your Savvy Office. Alors, pourquoi un nom anglais ? Parce qu'en fait, dans le secteur des centres d'affaires, généralement, ce sont des noms à consonance anglophone. Et alors, pourquoi ISO ? Parce que ISO, c'est un nom facile à retenir par rapport à la norme ISO. Et les trois lettres, en fait, bon, Your... Et office, tout le monde comprend, mais alors savvy, c'est un très vieil adjectif qui veut dire modulable, pratique. Et ça correspondait bien à l'activité où effectivement je loue des bureaux qu'on qualifie de modulables. Voilà.
Alors c'est savvy avec deux V.
Avec deux V, tout à fait, oui.
Et donc parce que moi dans mon esprit, savvy c'était la protection, donc il y avait un côté cocooning dans le côté savvy en disant il y avait, par contre c'est des doubles sens, enfin bon voilà.
Exactement, tout à fait, oui. Et ça a été trouvé en fait par un groupe d'amis qui ont fait un brainstorming avec un New-Zélandais, une Anglaise, une Écossaise, une Irlandaise et voilà. Ils ont trouvé ce vieil adjectif sorti de très très loin et ils étaient très fiers et c'est vrai que ça sonne bien ISO et tout le monde retient facilement ISO. Voilà.
Ça devait être à la suite d'une soirée bien arrosée avec tout ce petit monde.
Eh ben non, j'y étais pas conviée malheureusement. Mais bon, en tout cas, le résultat plaît et les gens retiennent le nom facilement. C'était le but du jeu en fait. Voilà.
Ok. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Vous allez nous décrire votre parcours et ce qui vous a amené à créer ISO en septembre 2010. Donc, ça fait maintenant, on se rapproche des 13 ans.
Eh oui, tout à fait. Et en fait, j'ai un parcours un peu atypique. Moi, je viens du secteur de l'édition d'art. Dans une précédente vie, comme j'aime dire, j'étais attachée de presse dans l'édition. Et j'ai eu le bonheur d'être maman. Bon, il y a des petits soucis à la naissance, donc j'ai dû arrêter de travailler du jour au lendemain. Et pendant 20 ans, je me suis retrouvée maman au foyer de trois charmants bambins qui sont maintenant de jeunes adultes qui ont brillamment réussi. Et puis, ben, une fois que la petite dernière a eu son bac, il a fallu que je retrouve une activité. Et j'ai eu l'opportunité de participer à la création de ce centre d'affaires qui était quelque chose de tout à fait inédit à Paris Nord 2. Je suis juste en face du parc des expos de Villepinte. Et c'était une forme de challenge parce que c'était un secteur d'activité que je ne connaissais pas. Donc j'ai relevé le challenge Et j'ai monté cette entreprise. En fait, j'ai fini de constituer ma société en même temps que je recevais mes premiers clients. Et donc, j'ai vécu le même parcours que les chefs d'entreprise que j'héberge.
Mais alors, pourquoi cette idée de centre d'affaires ?
Alors, en fait, c'est le père de mes enfants qui, grâce à une opportunité immobilière qu'il avait, a eu cette idée de monter un centre d'affaires. Il n'y en avait pas à Paris Nord 2, il n'y en avait qu'un seul à Roissy. Et tout le monde nous disait, oh, un centre d'affaires, ça ne marchera jamais à Paris Nord 2. Alors, fallait pas, surtout pas nous dire ça. Donc, on relève le challenge. Et c'est vrai que ça a tout de suite marché. Alors, tout de suite marché, pourquoi aussi ? C'est parce qu'en fait, venant du secteur de l'édition, et surtout des relations publiques, bah, j'ai procédé comme pour la promotion de mes livres. Donc, je suis allée au-devant des clients potentiels. J'ai promu mon activité, mais surtout, avant tout, le secteur de Paris Nord 2, qui est un magnifique parc d'affaires que tout le monde ne connaît pas forcément. Quand on parle parc d'affaires, on pense tout de suite à la Défense. Mais non, il y a aussi une ville dans le nord-est de Paris, surtout à Roissy, en fait. Et bah, j'ai, entre guillemets, écumé les réseaux de chefs d'entreprise pendant pas mal de mois. Et ça a assez rapidement bien fonctionné. Et mes premiers clients venaient d'Anguin. Voilà.
Donc voilà, la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée, Anguin et Montmorency, voilà mes premiers clients.
Alors, on va revenir, vous parliez de Roissy, Paris Nord, et en fait, vous êtes basé à l'adresse officielle du centre d'affaires, c'est Villepinte.
C'est Villepinte.
Donc, c'est dans le 93.
Oui.
Et donc... Non, pas de commentaire. Ici, on est dans le 95, mais c'est vrai que tout est extrêmement imbriqué en termes de département. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce point-là ? Parce que c'est vrai que entre Villepinte, Roissy, même Roissy, il y a une partie qui est dans le 93, une partie qui est dans le 95. Donc, c'est très très interconnecté.
Tout à fait. Alors, en fin de compte, moi, je vais surtout vous parler de Paris Nord 2 et du Grand Roissy. Parce qu'effectivement, le parc d'affaires privé de Paris Nord 2, où je suis, est sur 4 communes. Alors, personnellement, je suis à Villepinte. La commune de Tremblay, trottoir d'en face. Derrière, c'est la commune
Tremblay,
de Gonesse.
Alors, Tremblay, c'est du 95.
93.
93 aussi.
Et d'accord. Alors, à Tremblay, en France, il faut savoir que l'emprise de l'aéroport de Roissy, qui est pour tout le monde dans le 95, 70% de l'emprise de l'aéroport est sur la commune de Tremblay, en France. Donc, dans le 93. Alors, donc, la commune de Gonesse, 95, et la commune de Roissy, en France, qui est aussi le 95. En plus, Paris Nord 2 est en sandwich entre deux communautés d'agglomération, celle de Paris Terre d'Envol, qui est celle du 93, qui concerne 8 communes, donc Aulnay, Duny, Villepinte, Tremblay, Le Bourget, etc. Et l'interco de Roissy Pays de France, celle du 95, qui concerne 42 communes du Val d'Oise. Vous imaginez, pour une entreprise comme la mienne, c'est un terrain de jeu magnifique. Et ils sont très très proches des entreprises, qu'elles soient du 93 ou du 95. D'autant plus que l'interco dont dépend l'organisme, je pense que vous devez connaître Roissy Développement.
Bien sûr.
Voilà. Roissy Développement, c'est aussi des communes de Seine-et-Marne. Et aussi, alors, puis en plus, bon, on est aussi limitrophe avec le Sud-Oise. Donc, faut vraiment plus parler en termes de grand Roissy que à la limite que de Paris Nord 2, que de Roissy. On est un seul et même village, en fait. Parce qu'en fait, tout est concentré là-bas et tout le monde se connaît. Je veux dire, dans un rayon de 30 km autour de l'aéroport, tous les chefs d'entreprise se connaissent, les politiques se connaissent, on se croise les uns et les autres dans les cocktails, dans les réunions. C'est vraiment un pôle d'activité extrêmement dynamique.
Donc c'est à la fois Paris et un petit peu la province. Oui,
c'est plus Paris.
C'est plus Paris.
Oui, oui, oui.
Alors tout à l'heure, vous parliez de la défense en disant il n'y a pas que la défense. En termes d'accessibilité, donc, vous, comment ça se passe?
C'est même bien mieux qu'à la défense, parce que non seulement on a un accès direct sur l'autoroute A1, sur l'autoroute A3, sur l'autoroute A86, en RER... vous avez le RER B, Parc des Expos, qui s'arrête juste en face de mon entreprise. On va avoir aussi la ligne 17. Et on est à deux stations du TGV. Et alors, sans compter la proximité de l'aéroport du Bourget et surtout de Roissy. Voilà, on ne peut pas être mieux placé à la Défense. Ils n'ont pas tout ça et on a moins d'embouteillages.
Ah, c'est pas sûr, hein.
Oui,
parce
oui.
que Roissy, pour arriver à Roissy le matin, moi j'ai eu quelques surprises.
Je reconnais, c'est quelquefois compliqué.
Ça peut être un peu compliqué. Mais c'est vrai que la défense est encore pire. Donc,
tout à fait.
Alors, tout à l'heure, on discutait un petit peu avant l'émission et je voudrais que vous reveniez un peu sur la période Covid. Parce que dans mon esprit, ça, je pensais que ça avait été particulièrement compliqué en tant que centre d'affaires, en disant, bon, bah tout, Roissy, les avions, tout était au sol. Du coup, dans mon esprit, vous aviez dû passer une période difficile et finalement, j'ai cru comprendre que c'était pas si mal que ça. En tout cas, c'était oui. beaucoup moins pire que ce à quoi on pouvait s'attendre.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, dans un premier élan, sont parties toutes les entreprises qui travaillaient directement avec le secteur du tourisme et surtout tout ce qui concerne l'aéroportuaire. Clients rapidement remplacé par des grosses sociétés dans le secteur du BTP, sociétés qui sont toujours chez moi, et entre autres aussi une société de messagerie, alors là qui ça marchait du feu de Dieu pour eux, c'est, ils avaient pour client exclusif le groupe Amazon. Et en fin de compte, au bout d'une semaine où j'étais un petit peu à la maison, je suis retournée au travail. Alors, ça faisait un côté magique parce qu'en fait, il n'y avait personne. Ça circulait très bien. En plus, l'endroit de Paris Nord où je suis, c'est très, très verdoyant. Comme ça date du début des années 80, il y a énormément d'espaces verts. Et en fait, on venait travailler. On avait les oies bernaches qui se promenaient, les canards colverts, les lapins. Toute une faune incroyable qui s'était réappropriée.
Tout ce qu'on voyait dans Vidéo Gag.
Mais exactement, c'était fou. Et puis, malgré tout, il y avait quand même de l'activité parce que comme je suis aussi centre de domiciliation, pardon, forcément, mes clients recevaient du courrier, donc il fallait gérer le courrier. Et aussi, des sociétés de formation qui ont rapidement eu assez des formations en distanciel sont revenues en présentiel, alors avec des normes assez strictes au niveau des conditions, c'est-à-dire dans les salles, pas plus de 10 personnes. J'ai dû investir dans du matériel pour les salles de réunion de formation avec des tables individuelles et surtout un protocole sanitaire que je garde toujours. Et depuis cette période, d'ailleurs, c'est toujours moi qui, tous les soirs, renettoie les salles parce que on n'a pas eu d'épidémie de Covid dans mes clients. Je crois que j'ai simplement eu deux clients qui l'ont eu, à ma connaissance, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai passé... C'est peut-être un peu fort, mais malgré tout, très sereinement, cette période du Covid.
Bon, alors, c'est une note d'optimisme, donc on va faire une première pause musicale.
Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. And I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Well, I don't know. Sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child. Myself down to the bone, and I swear on Grandpa's grave I'll be paid when I come home. Hey, hey. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio et merci d'être avec nous. Et d'être toujours avec nous. Nous sommes avec François Housseau de Lucky Lost, Xavier Menuet de BMG Fadem et Sandrine, je ne dirai pas le nom,
Missionnaise.
Merci de Dizzy. Donc
ISO.
Nous ISO, Easy, ISO. Allez. Donc d'ISO. Pourtant vous avez bien expliqué la signification, hein. Nous continuons. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu votre l'organisation d'ISO en termes combien de bureaux, quel service offert pour bien comprendre votre activité.
Alors donc ISO, c'est ce qu'on appelle un centre d'affaires. Qu'est-ce qu'un centre d'affaires ? En fait, c'est un établissement qui reçoit des entreprises. Alors, ça peut être des entreprises en cours de création. Ça peut être des grands groupes nationaux et internationaux. Des entrepreneurs qui grossissent et qui ont besoin d'avoir un bureau dans un site un peu stratégique. Ça peut être des start-up. Ça peut être des sociétés voisines qui vont avoir besoin d'une salle de réunion. En fait, pour être centre d'affaires, on doit avoir trois activités. La location de bureaux équipés. Alors, un bureau équipé, c'est un bureau meublé avec les connexions Internet. La location de salle de réunion de formation et la domiciliation commerciale. En ce qui concerne mes bureaux, moi, j'ai 20 bureaux. Alors, le centre d'affaires fait à peu près 700 mètres carrés, ce qui est quand même assez grand. J'ai 6 salles de réunion qui vont d'une capacité de 14 à 3 personnes. Voilà, moi, c'est pas trop grand non plus, parce que le mètre carré étant très cher à Villepinte, faut bien rentabiliser. Et au niveau des services, donc mon activité étant rattachée à l'hôtellerie et non pas au secteur de l'immobilier, c'est comme une chambre d'hôtel. Quand vous louez un bureau ou une salle de réunion chez moi, tout est compris dans le tarif. C'est-à-dire la location du matériel, l'électricité, les taxes en tout genre, l'internet.
Vous faites un bail, c'est un contrat, comment ça se passe ?
Surtout pas de.
C'est pas un bail.
Non, c'est pas un bail, c'est ce qu'on appelle un contrat de service bureau. C'est-à-dire, ça vous permet d'avoir une grande flexibilité. Par exemple, concernant les bureaux, les contrats généralement c'est de location, c'est d'un mois à 23 mois. Pourquoi 23 mois ?
C'est du précaire, alors.
Après, 24 mois, c'est du précaire. Voilà. Mmh. Et donc, les contrats de service bureau sont renouvelables, ad vitam aeternam. Mmh. En cours de contrat, vous pouvez prolonger votre contrat. Vous pouvez le raccourcir. Vous pouvez prendre deux bureaux, choisir de prendre un plus petit bureau. Voilà, c'est extrêmement... L'intérêt du centre d'affaires, c'est le côté modulable.
Flexible.
Flexible, tout à fait. En plus, généralement, les centres d'affaires sont situés dans des zones d'activité assez intenses. Donc, moi, j'ai la chance. Quoi, la chance. Bon, c'est aussi, je pense, grâce à mon travail. Mais ça fait 3 ans où j'ai pratiquement un taux de remplissage de 100%. Quoi. Je sors d'une période de 100% de taux de remplissage pour les bureaux. Là, j'ai de bureaux qui se libèrent. Et depuis le Covid, le secteur de la formation marche très, très, très fort. Et j'ai à peu près, sur les 6 salles, 3 salles de louer, quoi, surtout les plus grandes, au quotidien.
Dans votre métier, le taux de remplissage, là, vous dites que vous êtes à 100% habituellement. Qu'est-ce qui est déjà un bon taux ?
Un bon taux, c'est 80%.
Donc, vous êtes hyper performante.
Alors, aussi, la raison aussi pour laquelle je suis hyper performante, c'est qu'en fait, je suis toute seule dans mon entreprise. C'est mon bébé. Je ne compte pas mes heures. Et j'ai la chance d'avoir des clients, mes plus anciens clients, qui sont d'Anguin, je les salue. Ils sont là depuis 12 ans. J'ai un tour opérateur tunisien qui est chez moi depuis 11 ans. La plupart des clients signent pour 1 an. Ils restent en moyenne, les contrats les plus courts, ça va être 2 ans, sinon 5 ans, 6 ans. Donc je pense qu'il y a
Donc c'est une grande fidélité.
Une grande fidélité, oui.
Et ouais. Alors, pour quelles raisons ils partent ? Ils partent parce que, pour le coup, ils se sont développés, et ils ont besoin de plus de mètres carrés.
Oui,
j'allais dire,
généralement,
quand on
c'est
arrive
ça.
Et qu'on reste 6 ans, 7 ans, j'allais dire, c'est toujours compliqué de partir d'un endroit, si on y est bien, surtout.
Oui, tout à fait.
Et qu'on trouve tous les services dont on a besoin.
Et puis, bon, c'est un peu un déchirement pour moi, parce qu'en fait, j'ai une proximité avec mes clients. En fait, tout le monde me dit, quand on vient chez vous, on s'y sent bien. On me dit toujours il y a de bonnes ondes. Et c'est vrai que c'est assez familial parce que effectivement, quiconque vient chez moi ne voit pas forcément que c'est un centre d'affaires. Et moi, par exemple, une petite anecdote, ça remonte à plusieurs années, mais j'ai un client qui recevait un visiteur très important pour lui. Il y avait un gros contrat à la clé et il est venu me voir, il m'a dit, écoutez Sandrine, est-ce que ça vous dérange pas si je fais visiter le centre en laissant croire à mon client que je loue toute la surface et est-ce que vous pourrez nous apporter à un moment précis du café ? J'ai joué le jeu et le client a signé son contrat. Donc, mais vous voyez, j'ai une proximité avec mes clients qui fait que je pense que moi, comme dans l'hôtellerie, si vous voulez, ce qui prime, c'est la notion de service. Moi, je pars du principe, le client me fait confiance en venant chez moi. Bon, c'est quand même un certain coût de louer un bureau en centre d'affaires. À titre indicatif, la plupart de mes bureaux font entre 18 à 20 mètres carrés. Donc, on peut y mettre de 2 à 3, voire 4 personnes, quoi. Plutôt 3 personnes. Et il faut compter, suivant la durée du contrat, entre 950 à 1200 euros. Par mois, hors taxe. Mais tout compris, avec la place de parking aussi en sous-sol. Et donc, moi, je suis très proche de mes clients. Alors, comme j'ai pas honte de le dire, hein, j'ai 62 ans, donc j'ai mes clients, je suis un peu, pas leur maman, mais ils sont souvent beaucoup plus jeunes que moi. Et vous voyez, j'ai même mis, dans mon bureau, qui sert aussi d'accueil, un canapé. Alors ça fait toujours sourire, mais n'empêche, ça me permet de recevoir mes clients parce que ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'un client centre d'affaires, c'est souvent un client, quoi, un entrepreneur seul. Et c'est pas toujours évident à vivre l'isolement du chef d'entreprise. Et les gens, ça reste des humains. Et moi, l'humain est très important et les gens viennent discuter dans mon bureau. Ils viennent me raconter leurs petits malheurs, pro et perso, leur grand bonheur, pro et perso. Et c'est super important, l'écoute. Et je crois aussi, moi, ça marche. Pourquoi ? Parce que je suis à l'écoute des gens. On me dit des fois, je suis un peu trop empathique, mais n'empêche que, voilà, ISO, c'est une grande famille. Ça se passe bien. Quand les clients partent, mes clients pleurent. Moi, des fois aussi un peu, parce que ils vont ailleurs. Ça, ils ont grossi. Tant mieux pour eux. Mais voilà quoi. C'est une très belle aventure humaine avant tout, ISO.
Donc vous êtes aussi psychologue.
Je suis psychologue, mais ça vient du... c'est l'attaché de presse, vous voyez, qui ressort. Et c'est pareil, une chose importante, moi, dans le package, chose que font pas les autres centres d'affaires, à ma connaissance, et je les connais bien, je connais bien mes concurrents, c'est que je les accompagne aussi dans les réseaux de chefs d'entreprise. On a la chance d'en avoir beaucoup, surtout dans le 95, mais aussi dans le 93. Et suivant leur activité, ce qu'ils recherchent comme cible de clients, ben je les oriente et je les accompagne physiquement dans les réseaux. Et je leur présente de potentiels clients. Voilà. Et alors ça, c'est l'attaché de presse qui ressurgit. Et ça, je pense que c'est une seconde nature. Et ça aussi, les clients apprécient. Voilà.
Donc j'avais prévu de vous poser la question de quels sont vos plus par rapport à vos concurrents, mais je remballe ma question, c'est pas la peine, vous avez déjà tout expliqué.
Voilà.
Donc c'est parfait. Sur les, là je pense que vous parliez des clients qui restent sur une durée, mettons un an, deux ans. La répartition entre les clients de, j'allais dire dans votre chiffre d'affaires, entre le client de passage entre guillemets et les clients qui sont plus stables, ça se répartit comment par rapport à votre périmètre?
Alors, les clients stables, c'est 50% du chiffre d'affaires, 20% pour ce qu'on appelle les clients de passage. Alors, un client de passage, qu'est-ce qu'un client de passage? C'est un client qui va louer un bureau pour quelques heures, une demi-journée ou une journée. Voilà. Alors, je précise, je ne fais pas de coworking chez ISO parce que ça ne fonctionne pas. On n'a pas la clientèle. À Paris Nord 2, dans le Grand Roissy.
Et donc, en fait, ce que vous dites, c'est ça peut marcher ailleurs, mais ça ne marche pas chez vous, c'est
voilà,
ça?
Voilà, ça ne marche pas chez moi, ni chez mes concurrents. Moi, à côté de chez moi, j'ai Regus, qui est quand même un des leaders mondiaux qui s'est installé bien après moi. D'autres clients qui se sont installés, des groupes qui se sont installés, ça ne marche pas. Et de toute façon, vous avez tous les hôtels de Roissy. Alors moi, c'est un réseau avec lequel je travaille beaucoup aussi, tout le réseau des hôteliers du Grand Roissy, qui ont un service de coworking. C'est un nom assez connu, ça s'appelle Wojo. Et en fait, quand ils ont des chambres vacantes et qu'un client, un chef d'entreprise, un commercial de passage a besoin de se réunir avec son équipe pour recevoir un client, ils transforment là les chambres d'hôtel en
espace de coworking.
Voilà. Donc, et sinon, moi, c'est le reste de mon chiffre d'affaires, donc 30%, c'est tout ce qui est formation professionnelle, la location des salles de formation et de réunion.
Donc, c'est plus vraiment du passage, c'est du récurrent, courte durée, pardon.
Et même, comme j'ai la chance d'être en face du parc des expositions de Vie Paris, quand il y a des gros événements, c'est toujours de toute façon des salons pro. J'ai toujours des clients qui reviennent tous les ans à l'occasion des salons, qui me louent une salle de réunion une réunion avec leurs équipes qui réunissent cette occasion. Et c'est des clients fidèles qui reviennent tous les ans. Ils viennent qu'une demi-journée, mais ils reviennent tous les ans. Voilà. Ils ont leurs petites habitudes. Et moi, en tant qu'ancienne attachée de presse, je note toujours tout. Voilà, je fais des trombinoscopes. Je veux dire, c'est deux choses toutes bêtes, mais au moins, quand vous savez qu'un client se marie dans les mois qui suit sa venue, quand vous le revoyez l'année d'après, vous avez des photos, alors un bébé en route, sinon quand vous savez que leurs enfants vont passer des examens, alors le petit dernier a son diplôme, et les gens sont heureux parce qu'au moins, c'est pas qu'une location. Moi, j'ai eu quelques clients, vous voyez, quand on met une salle de réunion, il faut mettre quand même en place une signalétique. Ils arrivaient, ils rentraient, paf, ils s'installaient dans la salle. Et chez moi, ça se passe pas comme ça. Moi, je les accueille, je les accompagne jusqu'à la salle, je leur offre le café. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Mon bureau est toujours ouvert. Et à chaque fois, on me dit, c'est incroyable votre accueil. Ailleurs, on n'a pas ça. Et puis, en plus, ce qu'on me dit aussi, c'est que mes locaux sont propres. C'est tout bête, mais alors, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais sont propres. En plus, moi, je sais pas des locaux qui vont être marqués par une mode de mobilier, tout ça. Non, moi, c'est dans un immeuble de standing. On m'a dit, on a l'impression d'être dans un cabinet d'avocat. Je préfère qu'on me dise ça, qu'on me dise, On a l'impression d'être dans une cafétéria, vous voyez.
Ça peut être convivial, une cafétéria, ceci dit.
Oui, ça peut être convivial, mais chez moi, c'est très convivial aussi.
Une dernière question, Sandrine. Votre meilleur souvenir professionnel, parce qu'on sent, cette passion et cette joie de vivre.
Alors, un de mes meilleurs souvenirs, alors là,
ou une grande satisfaction professionnelle.
Oui, ça
pas
sera
forcément
plutôt ça.
Un meilleur souvenir, ce que vous voulez.
Donc,
soit l'un, soit l'autre.
Mon travail de promotion de Paris Nord 2 sur plusieurs années pour attirer les clients, avant de les attirer chez moi, il faut d'abord effectivement leur vendre le site. J'ai eu la reconnaissance du GIE de Paris Nord 2, qui est l'organe qui s'occupe de toute l'organisation du parc. Et ils m'ont nommée vice-présidente de Paris Nord 2 entreprises. C'est quand même 450 entreprises, et pas des moindres. Entre autres, vous avez des entreprises comme Raja, Gerbet. Et je siège au conseil d'administration, même titre qu'eux. Et ça depuis 2014. Et je vous avoue que j'étais quand même très flattée. Moi, la plus petite entreprise du parc, devenir vice-présidente. Et mon mandat court toujours. Et j'assume toujours mon rôle avec autant de plaisir et d'enthousiasme. Voilà.
Merci Sandrine, on va marquer une nouvelle pause. À tout de suite.
Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, 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 je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tu me dis que mon rêve est juste à côté. Que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, 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 ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai prié tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, merci de rester avec nous. Nous sommes toujours avec Sandrine Mucianez d'ISO, Xavier Menuet de BMG FADEM et François Housseau de Lucky Lost. Donc François, expliquez-nous votre parcours et ce qui vous a amené à créer Lucky Lost.
Alors merci Paul déjà de m'avoir invité, accueilli à cette émission. On a besoin de pouvoir communiquer et parler de nous, donc c'est vraiment une très très bonne occasion. Alors mon parcours, il est assez simple. En 98, j'ai créé une société de logiciels dans le monde du cabinet recrutement. Bon, j'ai fait d'autres choses avant, mais c'est une entreprise qui existe toujours. Très belle société, mais voilà, après le Covid, j'avais le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour du métier. Le métier a changé aussi, largement. Et j'avais...
Le métier d'éditeur de logiciels.
Le métier du monde du recrutement.
Du monde du recrutement, du monde du recrutement, d'accord.
Voilà, pardon. Le monde du recrutement a pas mal évolué, pas forcément le bon sens, en tout cas, pas dans le sens forcément de mes valeurs. Et puis au bout de 23, 24 ans, voilà,
on a envie de voir autre chose.
On a peut-être envie de voir autre chose. Donc, on avait, avec mon associé de l'époque, revendu partiellement l'entreprise quelques années auparavant, 4 ans pour être précis. Et en 2021, voilà, je me suis posé la question, après les événements Covid, etc., si j'avais pas envie de partir sur une nouvelle aventure. Plus risqué, parce que c'est vrai que quand on est un peu au chaud, avec une entreprise qui fonctionne très bien, avec 6 semaines de vacances par an, parce qu'on a l'ancienneté et un salaire correct, on peut se poser la question de savoir si, à l'époque j'avais 52 ans, si voilà, on n'a pas envie de faire 12 ans de plus dans ces conditions. Mais voilà, j'ai plutôt choisi d'aller vers une voie différente et de me relancer dans un esprit start-up, complètement start-up, seul. Et c'est pour ça que j'ai créé Lucky Lost.
Alors, Lucky Lost, expliquez-nous, la start-up.
Alors, Lucky Lost, en fait, est né du constat de la perte des objets du quotidien, que ce soit personnel ou professionnel, que l'on peut tous avoir. On a tous des histoires, en fait. Hein. J'ai perdu mes clés, oh là là, mes lunettes, je les ai oubliées quelque part, mon sac à dos dans les transports, j'arrive pas à remettre la main dessus, il est perdu, je l'ai oublié, j'ai abandonné. Bref, on a tous des histoires, à gauche, à droite, d'objets qu'on a perdus ou d'objets qu'on a trouvés. Et c'est arrivé évidemment autour de moi, c'est comme ça que naissent souvent les idées. Hein. J'ai ma fille par exemple qui avait oublié son sac à dos dans les transports RER, avec évidemment son ordinateur portable, la sauvegarde qu'elle a avec, bien entendu.
Tant qu'à faire,
autant y aller. Le passeport, les clés du babysitting, enfin bref, panique à bord. Les gens de la RATP l'ont pas vraiment aidé parce qu'ils ont, on va dire involontairement, très mal noté son nom, son numéro de téléphone et son email. Aller comprendre. Bref, et une personne civique, et ça c'est vraiment une notion sur laquelle je reviendrai parce que c'est quand même une notion importante, a récupéré le sac, a trouvé ses coordonnées grâce au passeport qu'elle avait oublié dans le sac, lui a envoyé un message sur les réseaux sociaux et elle a récupéré ses affaires. Et pour la petite histoire, parce que c'est une histoire intéressante, moi je lui ai dit voilà, je te file un billet de 50 euros pour remercier la personne qui a fait cette démarche civique, c'est quand même super important, etc. Et la personne a refusé en rendant le sac, en disant non. Donc c'est une belle histoire, positive. Et en regardant un petit peu sur ce qui se pratiquait sur Internet, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de sites où on pouvait déclarer une perte. Ou déclarer une trouvaille, alors c'est des grands formulaires, hein, on précise l'objet, le type, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de solution d'anticipation. On pouvait dire, tiens, comment je vais faire pour anticiper cette perte ? Alors, il existe des solutions où c'est moi qui vais chercher l'objet, d'accord ? On pense aux produits d'Apple, les AirTags, etc. Donc c'est moi qui fais la démarche de chercher l'objet, mais c'est ces petits boîtiers-là doivent être rechargés, il y a une batterie dedans ou une pile, il faut avoir un appareil à proximité, voilà, c'est une démarche qui est différente. Et moi je me suis dit, bah après, avec le Covid, on a tous pris l'habitude de finalement scanner le QR code. Parce qu'il fallait plus parler avec les gens quand on commandait au restaurant, il fallait scanner un menu, il fallait, voilà, même maintenant dans les pubs, dans l'affichage public, on voit des QR codes un peu partout, etc. Donc je me suis dit, tiens, c'est super intéressant, c'est quand même quelque chose qui est, que maintenant les gens connaissent, qu'on peut utiliser abondamment sans reverser des royalties. Je me suis dit, ok, on va créer une société qui va permettre aux gens, on va dire, de référencer les objets, d'y associer un QR code. Et lorsque la perte est réelle, ça peut être un sac à dos, des clés, de l'outillage hein, dans le milieu professionnel, ça peut être un ordinateur, un téléphone portable. Quand l'objet est retrouvé, un simple scan sur le QR code, sans aucune application installée, permet d'avoir une relation anonyme entre le découvreur et le propriétaire.
Alors, rappelez-nous avant de nous expliquer voilà. concrètement comment ça marche, les quelques statistiques des enjeux autour de la perte d'objets.
Alors, lorsque j'ai créé la société, je me suis quand même intéressé à la perte des objets et il y a quelques études qui existent et je vais vous donner quelques chiffres, ça vous allez être très étonné. On est à Roissy, ça tombe bien, on est à côté de Roissy. Eh bien, il faut savoir que tous les mois, à Roissy, il y a en moyenne 2500 ordinateurs portables qui sont oubliés. Alors on peut se dire mais comment c'est possible, un ordinateur portable c'est quand même quelque chose que bah si en fait les gens sont en transit, rechargent leur ordinateur, maintenant les assises, les sièges permettent en USB ou avec des prises électriques de les recharger, les gens les posent par terre, voilà, ils sont appelés pour leur vol et hop. Eh bien, ils ont la tête ailleurs. Il faut savoir que c'est quand même des environnements de stress, hein, les aéroports. Oublient leur portable. Autre exemple à Roissy, bah, simplement un ordinateur gris dans bac gris de sécurité. On passe tout ça avec son sac à dos sur les rouleaux et puis au détecteur. Et puis, on reprend vite ça parce qu'il y a la queue derrière. Et puis, bah, on oublie l'ordinateur tout simplement. Parce qu'il faut le sortir, hein, c'est obligatoire. On l'oublie dans le bac. 2500 ordinateurs portables à Roissy tous les mois, 10 000 objets récupérés par la SNCF tous les mois dans les trains. Alors là aussi, ça va de l'écharpe au gant, mais beaucoup de chargeurs, de portables, de téléphones, beaucoup. Alors les valises un peu moins, mais beaucoup de sacs à dos, beaucoup d'affaires comme ça. Évidemment, des lunettes, on n'en parle pas, des clés qui tombent des poches, parce que ça, on parle d'être étourdi, mais on a aussi les objets qui peuvent glisser, on s'en aperçoit pas. Et puis, aujourd'hui, un trousseau de clés entre la porte blindée, le badge, etc. On a parfois 200 euros dans la poche, c'est quand même un peu contraignant de les perdre. Sur les services municipaux liés aux objets trouvés, il y a à peu près 200 à 220 000 objets rapatriés tous les mois. Donc on est sur des chiffres qui sont complètement délirants. Voilà. Alors, pour petite précision, le grand service des objets trouvés de la mairie de Paris, enfin de la préfecture de police de Paris, dans le 15e, est depuis le Covid fermé au public. Donc ça veut dire que moi j'en parle parfois à des chauffeurs de taxi. Avant, ils prenaient une heure de leur temps parce qu'ils venaient dans le 15e en se disant voilà, je vais ramener tout ce que j'ai trouvé sur la banquette arrière, je vais perdre une heure, tant pis, mais je vais le faire. Ben attends, ils peuvent plus le faire. Donc j'en parlais justement la dernière fois, il m'a dit ben voilà, moi derrière, la dernière fois, le dernier objet, c'était une belle mallette Bosch avec de l'outillage, une belle perceuse, peut-être 200-300 euros. Il me dit j'ai envie de la rendre, je ne peux même pas. Donc, un petit QR code sur cette valise-là, en quelques secondes, permis effectivement de restituer l'objet, parce que le côté civique quand même est important. On retrouve des objets, les gens font un démarche de les rendre, de les restituer, et je pense que les gens ont autant de plaisir, et certaines stats en parlent aussi, hein, certaines études en parlent, les gens ont autant de plaisir à rendre un objet que celui qui va le récupérer.
Alors, maintenant, on a bien compris les enjeux. Comment ça marche? Concrètement, hein?
Alors, ça marche que lorsque j'ai lancé la société, effectivement, il fallait faire en sorte d'avoir vraiment une plus-value en termes d'étiquette. Alors, c'est tout bête, une étiquette QR code, vous allez dire, ouais, voilà, j'imprime moi-même, super, je vais acheter une planche d'autocollant à la FNAC et puis j'imprime moi-même. Ben, en fait, oui et non. Il faut que cette étiquette, elle adhère sur tous les supports. Alors, support le bois, le métal, l'aluminium, le verre, le plastique, le textile fin. Enfin, voilà, on a quand même une masse d'objets qui sont différents. Donc, il faut que l'étiquette tienne le choc et dans le temps. Et il faut aussi que sa surface résiste aux abrasions, résiste à la chaleur, aux UV, pour que, évidemment, ce qu'on a imprimé dessus, le QR code, et puis le petit message « Je suis perdu, ce qu'il y a des moines », ne s'altère pas. Et ben ça, en fait, je ne pouvais pas le faire tout seul. Donc déjà, il a fallu rechercher le bon industriel pour créer ces étiquettes-là. Alors je vous assure que c'est pas toujours facile. Il y a un vrai métier, un vrai savoir-faire que je connaissais pas dans le monde de l'étiquette. C'est pas banal, hein. Il y a des vrais.
C'est des étiquettes des françaises.
Alors oui, absolument, françaises. Tout est fait en
France. Franco-français.
Voilà, tout est fait en France. Donc là aussi, ça rajoute un peu au coût. Mais n'empêche que c'était important quand même aussi cette démarche. Donc moi, j'ai deux types d'étiquettes. Une pour les industriels, pour l'outillage justement que j'ai fait faire à côté de Lille. Alors ça résiste à moins 40 degrés, à plus 90. Ça résiste aux acides, aux gras, etc. Donc ça c'est top. Donc ça c'est la version un peu industrielle. Et il y a la version grand public où là je fais faire ça à Bordeaux, dans une société qui fait l'étiquette pour les enfants, les gourdes, les cartables, etc. C'est son métier. Et là je suis son premier client externe, mais l'étiquette était de tellement bonne qualité que j'ai fait du collant et du thermocollant aussi pour les vêtements de travail. Donc l'étiquette, c'est un vrai savoir-faire. Et après, évidemment, on a développé tout un logiciel derrière qui a pris plus de temps que je ne pensais pour faire en sorte qu'on puisse enregistrer extrêmement facilement l'objet sur lequel on a mis le QR code et puis que le découvreur de l'objet puisse, en quelques secondes, de manière anonyme, rentrer en contact avec le propriétaire.
On va marquer une pause et après, moi, j'ai plein de questions à vous poser parce que j'ai trouvé que c'était tellement simple que c'en était génial. Donc du coup, je me suis pris de passion. Donc j'ai plein de questions. Merci. On va marquer une pause.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ah, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir et isolé qui s'y engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Merci d'être toujours avec nous. Nous, avant de continuer avec François, je vous rappelle que nous sommes avec Sandrine Mucianèse, je vais y arriver, hein, je m'améliore, Dizo, Xavier Menuet de BMG FADEM, et donc François Housseau de Lucky Lost. Donc François, on continue cet entretien. Donc, ça y est, je vous avais fait les étiquettes, maintenant... concrètement, où est-ce que je les trouve, parce que le produit m'intéresse, et bah, j'ai pas de bol, je perds mes clés ou un vêtement ou mon ordinateur, donc du coup comment ça se passe?
Alors le produit est sorti dernièrement puisqu'on a eu pas mal de temps de développement, parce que c'est pas une simple étiquette, il y a tout un logiciel derrière, tout un environnement, une plateforme qui existe. Le produit entreprise, on l'a sorti en début d'année, et le produit grand public, qu'on appelle le produit express, qui est sous la forme de petits packs avec deux QR codes, un porte-clés, quatre QR codes, un porte-clés ou du thermocollant. On l'a sorti à la Foire de Paris, puisque nous étions invités par la mairie de Paris en tant que start-up innovante sur leur stand. Donc ça, c'était super sympa. On a pu parler avec les gens, pas vendre des produits, malheureusement, parce qu'on n'avait pas le droit de le faire. On a pu parler avec les gens et puis confronter aussi nos idées et voir si on s'était pas complètement trompé dans notre démarche. Donc le produit est sorti
à la Foire de Paris. Vous n'êtes pas trompé dans la démarche?
Non, les gens l'accueillent. Alors, c'est assez marrant parce que les gens ont adoré. Est-ce qu'on est ressorti? Ce qui est pas vrai, hein, mais c'est à chaque fois qu'on croisait les couples, et à la Foire de Paris, les gens viennent plutôt aussi en couple pour prendre une décision sur le jacuzzi qu'ils vont acheter ou les dépenses qu'ils vont faire dans ce genre d'endroit. C'est marrant, à chaque fois on a le droit à non, c'est ma femme qui perd les objets. Moi je perds jamais, alors ce qui est complètement faux. Enfin, c'est assez marrant, les gens vont adorer finalement, puisque c'est relativement simple. Le produit, on l'a confronté aussi à la Silver Economy grâce à Silver Valley, sur lequel nous sommes également adhérents, si je puis dire. Nous l'avons confronté aussi à des personnes seniors.
Alors, sur la Silver Valley, j'ai bien vu que c'était surtout les femmes qui perdaient des choses. Hein.
Voilà,
sur votre site, il y a une statistique clairement,
mais je crois que c'est pas tout à fait
les hommes
vrai,
se voilent la face, ou c'est les femmes qui perdent tout.
On l'a vu aussi à Foire de Paris, je pense que c'est les hommes qui n'osent pas avouer qu'ils perdent beaucoup leurs affaires. Mais en tout cas, effectivement, que ça soit des jeunes, que ça soit des femmes, des hommes ou des seniors, effectivement, les gens ont tous des histoires de objets qui sont perdus et trouvés, et l'idée c'est qu'effectivement on puisse anticiper cette perte par un QR code. Alors les produits, on les trouve maintenant sur notre site internet lucky-los.com, mais depuis une quinzaine de jours on est maintenant présent dans des commerces, puisque nous faisons du dépôt-vente dans des commerces de bagagerie, petite enfance, librairie, outillage, clés, etc. Pour être le plus proche des consommateurs, on a un petit présentoir de comptoir très sympa où il y a nos packs et nos flyers, et ça permet aux commerçants de dégager une marge intéressante sur un sujet bienveillant et que l'on peut trouver directement en boutique. Donc, ou dans certaines boutiques, dans le nord-ouest aujourd'hui de Paris, et en ligne.
Donc à la Défense.
Ouais, on aimerait bien aussi. Ouais, c'est ça, on va petit à petit, et on aimerait bien évidemment être présent dans des belles enseignes comme la Fnac, comme Boulanger, etc. Et là, petite précision, dans ces enseignes-là, je sais pas s'il y a des acheteurs produits, je sais pas s'il y a de l'humain, je sais pas s'il y a des gens. On a beau leur écrire, on a beau communiquer avec eux, on a beau les trouver sur LinkedIn, dire ce que l'on fait, etc. Je ne sais pas s'il y a des gens autour, on a beau aller dans les magasins et leur demander s'il y a des contacts, etc. On n'en a pas, donc si au travers de votre radio, il y a des acheteurs qui croient dans les produits French Tech fabriqués en France, innovants et bienveillants, qui nous contactent, parce que c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est l'après-Covid qui fait ça, mais on se retrouve face à des gens qui finalement, je sais pas, sont des fantômes. C'est extraordinaire. Alors on a essayé des petits mails, on a essayé des grands mails, on a essayé d'expliquer ça d'une certaine manière, etc. Rien n'y fait, je sais pas.
Je crois que personne n'a le temps. Il y a un problème du rapport au temps.
Oui, c'est possible, mais quand je vais à la Fnac et que je vois tellement de produits chinois que ça me fait un peu mal au cœur. Il y a beaucoup de produits français qui sont de très bonne qualité. Moi, je suis moi-même, en tout cas Lucky Lost est dans une pépinière qui est la pépinière 27 de la mairie de Paris dans le 11e. Il y a tellement d'entreprises, tellement de start-up formidables qui font des produits de qualité, répondant à un réel besoin, fait en France, etc., et qui ont les mêmes problématiques que nous, c'est-à-dire on n'arrive pas à rentrer dans la distribution parce que il n'y a personne qui nous écoute. Donc nos produits, effectivement, on va essayer de les mettre un petit peu partout. J'aimerais bien être dans les aéroports. On parle de Roissy au travers de Relais H, etc. Donc voilà, si un jour quelqu'un a un contact à nous donner, on serait ravis aussi, quelqu'un de responsable, on serait ravis aussi de pouvoir être au plus près des consommateurs, parce que c'est un sujet qui est important.
Alors, je reviens quand même, parce que j'ai acheté sur votre site... Oui. Un certain nombre de QR codes, je les ai mis sur mon ordinateur, sur mes vêtements. Je perds mon téléphone portable. Alors, je fais quoi? J'appelle, j'ai un numéro où j'appelle.
Alors,
attendez, je termine. J'ai perdu. Donc moi je fais rien, j'ai perdu. Oui. A priori, c'est celui qui a trouvé.
Exactement.
Donc qu'est-ce qu'il fait?
Alors, déjà, avant de perdre, j'ai enregistré effectivement mon QR code. Je l'ai scanné une première fois, j'ai précisé le nom de l'objet. Dans une petite liste, le fait que ça soit par exemple objet électronique, téléphone ou bagagerie sac, ou on a comme c'est une petite liste, pourquoi pas une petite photo de l'objet, ça peut être sympathique, c'est pas obligatoire. Je vais rentrer un téléphone direct facultatif, un numéro secondaire facultatif, ma société par exemple, le centre d'affaires dans lequel je suis, pourquoi pas si c'est un objet professionnel, un email obligatoire et c'est tout. Donc déjà en 20-30 secondes, mon objet est référencé, je vais recevoir un email me permettant de retourner sur la fiche de l'objet pour le modifier, et c'est tout. Voilà. Eh bien, je me promène dans la rue, je vais à une terrasse de café, mon téléphone, je le pose, qui a presque plus de batterie en plus, je le pose sur le comptoir, et puis je pars faire autre chose. Donc mon téléphone n'a plus de batterie. Pas de bol, je peux pas le localiser, c'est la panique, j'en ai quand même besoin, c'est un peu ma vie qui est dedans. Eh bien, le serveur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le téléphone, il a vu qu'il y avait un petit QR code marqué « Je suis perdu, scannez-moi » ou « Perdu lost » en français anglais. Il a scanné le QR code avec son propre téléphone, sans rien installer. Il y a une fiche qui est apparue, qui lui a indiqué que c'était un téléphone, qu'il y avait quatre possibilités finalement pour le restituer. Les deux premières étant l'appel direct sur le numéro que j'ai mis ou le numéro de secours, qui je rappelle est facultatif, pas obligatoire. Un échange par messagerie via l'email. Ou le dernier point, qui est quand même un point extrêmement sympa, qui est le dépôt dans un lieu sûr. On clique sur le petit bouton, apparaît effectivement les 5 lieux sûrs autour du découvreur. Mairie, commissariat, on pourra ajouter d'autres endroits, centre d'affaires, pourquoi pas. Si on n'a pas envie d'utiliser ces lieux sûrs-là, je peux remplir le formulaire en disant c'est la pharmacie d'en face, à telle adresse. Donc, en un geste, sans rien installer, je peux ou appeler ou échanger par messagerie ou le déposer dans un lieu sûr. En même temps, même avant tout ça, au moment où le QR code a été scanné, moi, en tant que propriétaire, j'ai reçu un message me disant « Voilà, l'objet a été découvert. » Donc, je me sens déjà rassuré. On peut se mettre à la place, effectivement, des gens un peu seniors. Moi, j'ai des parents qui vieillissent un peu, par exemple. Bon, si mon père a oublié son portefeuille au Super U, je pense qu'il serait hyper angoissé parce qu'il imaginerait que on va lui siphonner ses cartes, on va lui voler son identité, etc. Alors que tout simplement, la caissière ou le caissier a pris le portefeuille, l'a mis un peu de côté. Dès qu'il a 3 secondes, il va scanner le QR code et tout ça va rentrer dans l'ordre.
Alors, pour les particuliers, c'est très clair. J'ai vu que vous aviez un partenariat avec Global Charger.
Oui, absolument.
Je pense que c'est un bon exemple, peut-être, pour montrer que ça s'adresse à tout le monde, finalement, que ça soit les entreprises ou les particuliers. Les particuliers, ça semble une évidence. Les entreprises, un peu moins. Donc, si sur ce partenariat...
Alors, sur ce partenariat, c'est intéressant parce que Global Charger, c'est un fabricant de batteries externes pour recharger son téléphone ou autre chose. Ils sont présents en 150 festivals par an. Là, ils sont au Hellfest. Ils étaient au Hellfest ce week-end. Ils étaient au 24 Heures du Mans, etc. Donc, ils vendent des batteries très brandé de l'événement, mais avec aussi plein d'autres sujets. Ils offrent la recharge de leur batterie et on leur a proposé de distribuer nos produits, ce qui a du sens. Hein. Les gens ont un téléphone, ont des clés, viennent à un festival, souvent 3 jours, ils ont leur propre tente, c'est un peu à route parfois, etc. Et bien évidemment, quand on va dans les services d'objets trouvés de ces festivals-là, ils sont débordés, ils n'en peuvent plus, les gens pompent plein de trucs. Et c'est tout à fait logique. Hein. Donc on leur a dit, voilà, faisons un partenaire ensemble. Les gens viennent acheter des batteries chez vous, viennent les recharger, en même temps vous proposez nos produits. Mais effectivement, d'autres partenariats se dessinent, en particulier sur, par exemple, j'ai rencontré dernièrement des fabricants français dans l'hôtellerie de vêtements de travail. La veste, tout ce qui permet effectivement aux gens de travailler, mais dans des tenues qui sont plutôt haut de gamme, plutôt chères. Alors évidemment, on n'a pas tous son nom gravé, on s'appelle pas tous Paul Bocuse, hein, évidemment, on n'a pas tous son nom gravé.
On aimerait bien.
Ouais, j'imagine, mais eux l'ont fait. En plus, ils gravaient, c'est eux qui s'occupaient de ces vêtements de travail. Et voilà, on a discuté pour que notre QR code thermocollant soit directement proposé. Ou pourquoi pas mis directement sur le vêtement. Là, j'en parlais aussi tout bêtement à des forces de l'ordre. C'est tout bête. Hein. Ils me disent, voilà, on a intervention, ou des pompiers, on a intervention à gauche, à droite, etc. Parfois, on ne perd pas les objets, on ne perd pas nos affaires, mais simplement, on les laisse à un endroit et puis on ne sait plus trop à qui c'est. Et bien là, un simple scan du QR code permettrait de savoir que c'est tel commissariat, tel service de pompier. Et effectivement, dans le monde de l'entreprise, on a une petite particularité sur nos QR codes, c'est-à-dire que si je suis dans mon entreprise et que je scanne le QR code et que je suis référencé sur la plateforme, il n'y a pas d'anonymat sur l'information que je vais lire. Je vais lire, par exemple, que le fauteuil roulant, c'est le service pédiatrie du professeur X, parce que je suis dans l'hôpital et que le fauteuil roulant a été trouvé à un endroit. Par contre, si le fauteuil roulant est pris par un infirmier et sort de l'hôpital, je scanne le QR code, là on est complètement anonyme. Quand je vais appeler, je ne sais pas qui je vais appeler, mais je vais appeler évidemment le secrétariat du service, mais sans savoir qui c'est. D'accord. Donc on a aussi cette petite particularité qui permet de gérer des objets dans des entrepôts, de l'outillage, de la mobilité, etc. Et lorsque je suis, par exemple, responsable informatique, je trouve un chargeur, et ça, dans les salles de réunion, le chargeur, c'est quand même le truc qui est souvent oublié, je scanne le QR code du chargeur, je sais que c'est telle entreprise, telle personne. Si le chargeur est en dehors de l'entreprise, eh bien, ça sera complètement anonyme, et j'aurai tout pour restituer, évidemment, au propriétaire.
Alors, tous vos documents, flyers et autres, sont en bilingue.
Oui.
Donc, vous anticipez déjà sur un développement international. Et donc, je me suis dit, d'abord, c'est ambitieux et c'est bien. Bravo. Et le deuxième point, c'est de dire, mais tout à l'heure, je disais, c'est très simple, mais c'est génial. Donc, c'est génial puisque c'est simple.
Merci.
Mais en même temps, on se dit, mais je vais à l'international, mais je vais me faire piquer l'idée. Donc, aujourd'hui, votre réflexion par rapport à ça, quelle est-elle?
Alors, en France, en fait, il y a deux types de produits qui cohabitent. Le premier, c'est j'ai trouvé un objet ou j'ai perdu un objet, je vais sur... Il y a 5-6 sites qui existent, j'ai rempli un énorme formulaire et allez, on va dire que j'imagine qu'il y a un matching intelligent, voilà, sans parler d'IA, qui va faire en sorte que quelqu'un qui a trouvé un objet matche avec quelqu'un qu'on a perdu. Bon, entre nous, la solution existe, c'est formidable, etc., mais c'est un peu trop tard quand même. L'anticipation de l'objet par un QR code, je suis pas le premier à le faire, il y a aussi d'autres solutions, mais toute la différence tient aussi dans le service qu'on va offrir. C'est comme lorsque je loue effectivement des locaux, par exemple dans un centre d'affaires, la différence c'est dans le service qu'on va apporter, c'est dans la qualité de l'endroit, etc. Ben là, le service c'est le même. L'application doit être extrêmement simple, extrêmement efficace, le QR code doit être très résistant, etc. Et j'ai pu tester certains produits concurrents où, bizarrement, même si le sujet est le même, ben en fait, à la finale, l'expérience utilisateur est différente. Le QR code est plus petit, on n'arrive pas à lire le message. Mettre un QR code, c'est bien, mais en tant que découvreur, si je ne sais pas qu'il faut que je scanne pour le rendre, c'est quand même un peu dommage. Je vais passer à côté de l'information. Donc, il faut déjà que les choses soient lisibles, compréhensibles. Il faut que lorsque je scanne, je comprenne tout de suite quel est le sujet, etc., etc. Alors, nous, on peut pas breveter en fait le QR code. On peut pas non plus breveter l'idée. Par contre, on a déposé des enveloppes ISOLO à l'INPI pour montrer qu'effectivement
l'antériorité,
etc. Et puis nous, la marque, on l'a déposée grâce à des avocats sur la propriété intellectuelle. On l'a déposée en France et dans 5 autres pays européens, plus les États-Unis. Donc au niveau de la marque Lucky Lost, qui n'est pas facile à trouver comme nom, trouvez-nous une entreprise, enfin beaucoup d'entrepreneurs ont cette difficulté, c'est quand même pas évident, parce que voilà, faut qu'elle
soit... Mais c'est parlant, hein. Je vous ai pas posé la question de comment vous l'aviez trouvé.
C'est des réflexions qui sont compliquées. Hein. Faut que le message soit compris, faut que ça soit disponible, faut que ça soit voilà. Donc il y a la marque aussi sur laquelle on doit protéger les choses. Donc oui, on peut se faire piquer l'idée.
Après, faut aller négocier avec Lucky Luke.
Voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
pour qu'il porte un QR code.
Alors là, on est en pour parler dernièrement, c'est assez marrant, avec peut-être un prospect pour lequel on pourrait donner exclusivité au Canada et en Amérique du Nord. La semaine dernière, on nous a demandé l'exclusivité sur l'Espagne et le Portugal. Donc c'est assez amusant. Donc le produit plaît. Il n'y a pas de raison que dans les autres pays, les gens soient moins étourdis ou perdent moins d'objets. Alors après, le civisme, c'est un autre sujet. Quand on parle tous du Japon, où effectivement, même une chaînette en or trouvée dans la rue, les gens vont faire tout ce qu'ils peuvent pour restituer l'objet, etc. Bon, en France, je ne suis pas certain que ça soit le cas, même si je crois en fait à la bienveillance des gens. Mais n'empêche que c'est quand même une chance de plus de retrouver son objet, qu'on croit ou pas au civisme. Et sincèrement, on a tous pris le TGV à 6h du matin pour faire des Paris-Nantes, des Paris-Strasbourg. Votre voisin descend à Angers, il a laissé évidemment son portable rechargé, etc. Bon, je pense que 10 personnes sur 10 vont pas essayer de lui voler son portable en arrivant à Nantes. Non, bien sûr que non. Les gens vont le donner au contrôleur, les gens vont, s'ils voient un QR code, vont le scanner, les gens vont faire en sorte que, évidemment, ça leur prenne pas trop de temps, parce qu'ils ont une réunion derrière, ils ont des rendez-vous, mais en tout cas, ils vont faire la démarche de faire en sorte que l'objet soit pas perdu. Donc oui, le civisme existe, et j'y crois.
Bon, eh ben on va conclure là-dessus, parce que merci autrement, beaucoup. Moi j'aurais encore plein de questions à vous poser, mais il faut que Xavier nous raconte un peu aussi merci. BMG et FADEM. Donc nous allons marquer une dernière pause, et après la dernière ligne droite avec Xavier Menuet pour BMG FADEM. À tout de suite.
Week, spent the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down, help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be, lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays, and then we'll go all night, two-stepping with a woman I love. All my troubles gonna knock them when I'm in your eyes. Electrified, we'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it feels to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night, night, two-stepping with a woman I love. Night, yeah, all we need is us. What do you reckon, is it just me? Words are weapons and occasionally they cut deep. Crisis of confidence, it tends to come when I feel the dark and I open my heart. If you don't see it, you should trust me. I feel like I got nothing left right now, except this beauty in her dress right now. She got me feeling like the best, and the rest are just less than she needs. So we press play and step to the beat, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn. Head out to the place where it plays, and we'll go all night, two-stepping with a woman I love. All my troubles gonna knock them when I'm in your eyes. Electrified, we'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
Merci à tous, à vous tous qui êtes encore là, pardon. Je bafouille, je suis sous l'émotion d'avoir notre dernier invité, Xavier Menuet de BMG et FADEM. Donc, présentez-nous rapidement votre parcours et surtout, comme ce qui m'intéresserait, c'est on a deux créateurs, mais là on a un repreneur d'entreprise. Donc c'est rentrer un petit peu dans ce qui a déterminé vos choix de reprise par rapport à de la création et les difficultés ou les arbitrages que vous avez dû faire quand on fait une reprise d'entreprise.
Très bien. Alors, mon parcours déjà à l'origine valdoisien depuis longue date, puisque j'ai fait la formation, je suis diplômé de l'EISTI, École d'ingénieurs à Cergy.
Oui, vous êtes le régional de l'étape entre des sociétés valdoisiennes, Maffliers, Frépillon.
Frépillon, tout à fait.
Donc, voilà.
J'ai travaillé de nombreuses années dans le groupe Saint-Gobain. Dans lequel j'ai eu la chance d'apprendre énormément de choses. J'ai fait du commerce, de la supply chain, j'ai piloté des activités dans l'industrie B2B, dans la distribution B2C. Donc c'est d'une richesse incroyable. Et l'envie de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, à la fois à travers mes expériences dans le groupe Saint-Gobain, où j'étais dans des dynamiques assez intra-entrepreneuriales. J'avais envie d'aller encore plus loin. Et puis rattrapé par mes origines, je suis originaire d'une famille où beaucoup d'entrepreneurs, donc je pense que ça m'a un peu rattrapé, une forte envie de reprendre une entreprise. Et donc j'ai décidé, il y a une petite dizaine d'années, de me lancer dans l'aventure. Voilà.
Alors, les enjeux ou les difficultés de la reprise. D'abord, c'est facile de trouver une entreprise à reprendre ?
Ah non, c'est vraiment pas une chose simple. Déjà, juste pour donner deux trois chiffres, pour reprendre BMG, j'ai eu 125 dossiers en main, j'ai rencontré 45 dirigeants, j'ai fait 6 offres, j'ai été retenu sur 4 pour finalement signer une. Donc c'est un process qui est long, ça nécessite de bien savoir ce que l'on veut, et ça prend un peu de temps de savoir effectivement ce que l'on veut, donc de ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a envie de faire, c'est quoi le projet. Faut pas transiger avec ça, et puis ça nécessite aussi de bien s'entourer, de se former. Bon, il y a la formation du CRA par exemple,
Club des repreneurs d'affaires,
qui a été très très utile. Et puis derrière, bon, le groupe Saint-Gobain m'a accompagné aussi, à la fois financièrement, mais aussi en termes d'expertise. Le réseau entreprendre, que vous connaissez bien, Paul, aussi a été fondamental pour moi, post-reprise, sur les premières années de la reprise. Mais c'est vrai que c'est un combat de longue haleine. En tant que personne physique pour une entreprise, on se retrouve face à des personnes morales. En venant du salariat, pas forcément de légitimité à piloter une petite PME, surtout que les derniers postes que j'occupais, c'est des postes à responsabilité, comité de direction, comex, avec des personnes, pas mal de personnes animées. Donc c'est vrai qu'il faut convaincre. Mais par contre, c'est d'une richesse absolument incroyable, donc des rencontres, des émotions, et franchement, l'aventure et l'expérience, le moment de la recherche de l'entreprise où on démarre et le moment jusqu'à la signature, c'est un moment d'une richesse absolument hallucinante. Passionnante.
Alors, une fois que la reprise est faite, le cédant à chaque fois vous a accompagné. Comment ça s'est passé ?
Alors, ça s'est pas passé de la même façon les deux fois. La première fois, le cédant m'a accompagné un petit peu. Assez vite, on a arrêté l'accompagnement.
C'est compliqué, hein, la coexistence entre l'ancien. De mon expérience, c'est quand même.
Effectivement,
il faut que ça dure quelques mois, mais pas plus.
Faut pas que ça dure trop longtemps, surtout pour se faire accepter et reconnaître par les équipes. Quand le cédant est encore là, les équipes, elles ont le réflexe de continuer à aller voir l'ancien dirigeant. Bon, donc, par exemple, après, c'est vrai que quand moi je suis arrivé dans cette entreprise, j'ai racheté BMG, je connaissais absolument rien de l'écosystème, du métier.
Combien de salariés BMG?
C'était 14 salariés à l'époque quand j'ai racheté, donc je connaissais absolument rien. Et il a fallu tout apprendre, et puis voilà, entre ce que je pensais avoir acheté et ce que j'avais racheté réellement, il y avait quelques dissonances en termes de valeur portée, en termes de façon de fonctionner. Donc le temps que je m'en rende compte et que je réalise ça, et derrière qu'il faille, enfin tout ce qu'il a fallu faire pour remettre l'entreprise sur le droit chemin, ça a été une expérience assez compliqué, très riche, avec des moments de doute. J'ai pu craindre de ne pas y arriver. Et puis finalement, aujourd'hui, quelque chose d'assez fantastique. Donc je suis très très heureux de cela. Et la deuxième reprise, elle, par contre, s'est faite dans des conditions qui n'ont absolument rien eu à voir. C'est une rencontre. J'ai assisté à une table ronde à laquelle j'ai témoigné en tant que repreneur. Dans la salle, il y avait un dirigeant d'entreprise qui se projetait dans la cession de son entreprise à horizon de 2 ans. Il est venu me voir après la table ronde. On est resté en contact et 2 ans après, j'ai racheté l'entreprise.
Ça, c'est top.
Et en fait, ça s'est fait d'une façon juste incroyable, avec une fluidité folle. L'équipe est top. Et c'est vrai qu'un élément qui est fondamental quand on reprend une entreprise, je pense, et je l'ai vu entre la première et la deuxième, c'est pas tout à fait le cas, ça peut être compliqué, c'est que faut être sûr qu'en termes de valeur, les choses nous vont bien. Parce qu'en fait, si on est en phase avec le dirigeant sur les valeurs portées, complètement en phase. Derrière, ça facilite considérablement la bascule et l'équipe reste parce que du coup, elle n'est pas perdue. Les valeurs restent les mêmes. Même si on fonctionne pas forcément de la même façon, même si on fait évoluer les choses, les valeurs, c'est juste un élément qui est absolument fondamental.
Alors, votre activité, maintenant qu'on a compris, on a campé le décor, l'activité des deux sociétés et peut-être leur complémentarité, comment elles se positionnent l'une par rapport à l'autre en termes de métier.
Alors, effectivement, déjà dans les deux activités, nous sommes fiers d'être partie prenante dans l'amélioration des lieux de vie. Alors, ce sont les logements, les bureaux, les écoles, les cinémas, tous les endroits où il se passe des choses, où les gens vivent. Et ça, c'est à travers la mise en œuvre de produits sur 3 corps d'état différents. Donc il y a la menuiserie intérieure, la menuiserie extérieure et la serrurerie. Alors quand je dis serrurerie, on parle pas de serrure, on parle de garde-corps, main courante, les portes de hall d'immeubles, ce genre de choses. C'est acier et aluminium, c'est ces produits en acier et aluminium qui sont considérés comme étant des produits de serrurerie. Donc on fait uniquement du B2B, on fait que du projet, du professionnel, avec une, on fait à la fois les études, donc on fait les chiffrages, les études, et une fois qu'on a les chantiers, on accompagne les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage dans leur projet, et là on réalise la mise en œuvre. Donc on fait principalement de la réhabilitation, mais on fait aussi du neuf, et quand il s'agit de faire de la réhabilitation, il faut déposer l'existant et remettre des produits nouveaux.
Oui, sachant que les occupants sont là, donc il faut tenir compte de tout cet aspect-là qui crée de
spécificité et un gros savoir-faire, c'est qu'effectivement le neuf c'est plus facile, il y a pas l'occupant à gérer. Quand on est en réhabilitation, il y a deux éléments très différenciants par rapport au neuf. C'est un, il y a des gens qui occupent les lieux, donc il faut faire attention à ça, il faut les respecter, les gens qui occupent les lieux, tenir compte de leur quand ils travaillent, quand ils vivent, enfin, etc., de leur environnement. Et puis, on dépose de l'existant. Et quand on dépose de l'existant, on est parfois confronté à des situations qu'on n'attendait pas. Et il faut savoir s'adapter. Donc, il faut savoir repartir en conception, adapter un peu le projet tel qu'on l'avait imaginé au départ.
En même temps, moi qui ai connu un petit peu le bâtiment, mais pas dans ce secteur-là, la réhabilitation est plus intéressante, y compris financièrement, que le neuf, c'est vrai ou pas pour dans votre secteur?
Alors,
et d'une manière générale, en termes, j'allais dire, d'activité économique, le neuf est soumis à plus de variations. En termes de, il y a des bonnes et des mauvaises années, et il y a plutôt des mauvaises années sur le neuf ces derniers temps, alors que, j'allais dire, la réhabilitation, j'ai du mal à le dire, assure vraiment le fonds de commerce et un volume qui est, j'allais dire, assez récurrent et qui rassure le chef d'entreprise.
Alors c'est vrai que la réhabilitation est un marché plus stable, avec des moins fortes variations que le marché du neuf, où on vit régulièrement des baisses, et là on est en plein dedans en ce moment avec des baisses de marché très 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 fortes. Effectivement.
Et donc les mesures gouvernementales, vous pensez que elles devraient amener, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, le neuf, on entend partout les fédérations se plaindre et de dire c'est compliqué quand on voit le nombre de mises en chantier dans le neuf. Vous voyez vous pensez que les mesures vont pouvoir relancer sérieusement le neuf?
Alors bon, je suis pas spécialiste pour commenter les mesures gouvernementales, mais ce qui est sûr, c'est que tous les acteurs du bâtiment et de l'immobilier sont unanimes pour dire qu'elles sont très largement insuffisantes et que ça donne pas l'impression que le gouvernement a pris la mesure des enjeux aujourd'hui dans le bâtiment et dans le logement. On a une crise du logement qui est de plus en plus importante. Il manque des logements en France et là, le marché du neuf est en train de se casser la gueule. Alors, les entreprises commencent à le sentir, le sentent pas encore parce que c'est les, y a l'inertie, hein, mais en fait, les mises en chantier, les permis de construire, enfin, tout s'écroule. Entre l'inflation, la hausse des prix des matériaux, donc la hausse du coût de la production,
problème de recrutement,
les problèmes de taux fait que les gens n'ont plus les moyens de s'acheter les logements qu'ils souhaiteraient, les problèmes fonciers autour de la ZAN, le fait qu'on souhaite éviter l'artificialisation des sols, donc bon, ça a un vrai impact sur la disponibilité du foncier et donc à terme sur les prix, fait que le neuf, là, je pense qu'on en a pour quelque temps avant que ça reparte. La réhabilitation, c'est un marché effectivement qui se comporte mieux. Avec, il y a des enjeux majeurs en réhabilitation autour de l'efficacité énergétique.
Oui, il y a les passoires thermiques.
Toutes les passoires thermiques, avec des enjeux en termes pour tous les bailleurs qui ont des logements à louer. Il faut qu'ils atteignent progressivement un niveau de performance énergétique s'ils veulent pouvoir laisser leur
continuer à louer.
Mais en même temps, voilà, les gens n'ont pas forcément l'argent disponible pour pouvoir faire ces travaux. Et aujourd'hui, l'accompagnement nécessaire est probablement très, très insuffisant. En tout cas, on n'est pas sur un rythme qui permettra d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà, après, on va voir. Alors, dans ce contexte-là, parce que, évidemment, nous, on vit, BMG, FADEM, on vit dans cet environnement, donc qui est compliqué. En plus, depuis le Covid, on s'est quand même pris pas mal de chocs, hein, entre le Covid, les hausses de
la
chaîne complètement arrêtée quand elle a repris, des problèmes de disponibilité très importants, des délais qui sont allongés, des prix qui ont augmenté, la guerre en Ukraine qui fait que de nouveau, hausse de l'énergie, les prix ont de nouveau augmenté, de nouveau un impact sur les disponibilités des produits. Enfin, on vit des situations depuis le Covid qui sont, on se prend des coups régulièrement. Après, tout le monde se les prend, nous comme les autres. Et là, pour le coup, moi, ce qui me rend assez serein, entre guillemets, c'est que je pense que chez BMG et chez FADEM, on est bien armés pour faire face à ça et pour savoir résister peut-être mieux que pas mal d'entreprises à ces chocs.
Donc, alors, deux questions que je vais relier. Vous vous êtes lancé dans deux projets du Lean et RSE, donc responsabilité sociale et environnementale.
Sociétale des entreprises, tout à fait.
Un mot sur les deux aspects des projets qui finalement vous permet de préparer l'avenir.
Aussi. Alors le Lean, c'est quelque chose que je connais personnellement depuis de nombreuses années pour avoir fait du Lean chez Saint-Gobain. C'est une démarche qui est née dans les années 50 chez Toyota, qui a été récupérée par les Américains dans les années 80-90, je crois, l'industrie automobile américaine qui voulait comprendre comment les Japonais faisaient des véhicules aussi peu chers. Et aujourd'hui, toute l'industrie fait du Lean et le marché de la construction se met à faire du Lean depuis une petite dizaine d'années. Les majors ont commencé, etc. Et là, il y a une démarche qui a été initiée par la FFB pour inciter les entreprises à rentrer dans cette démarche Lean, donc accompagner les...
Donc la Fédération Française du Bâtiment.
La Fédération
FFB.
Française du Bâtiment, tout à fait. Et effectivement, nous sommes associés à ces démarches, que ce soit BMG ou FADEM. Nous avons suivi une formation Lean et commencé à mettre en place cette démarche. On est assez fiers de ça parce qu'on fait partie des premières PME en Île-de-France dans le bâtiment à faire du Lean, donc ça c'est bien. On a commencé d'abord au niveau des équipes de management, donc à travers le rangement de l'entrepôt, des entrepôts, des fourgonnettes, aussi à travers la mise en place d'un planning, ce qu'on appelle un planning des prérequis, ce qui permet d'avoir une bonne vision de tout ce qu'on a à faire et d'échanger avec nos maîtres d'œuvre et nos clients de façon plus pertinente sur toutes les étapes à respecter avant de pouvoir poser les produits. Et il y en a un certain nombre, et sachant qu'on a des délais longs qu'il faut savoir anticiper. Et là, nous avons démarré maintenant une démarche Lean sur le terrain avec les menuisiers et les serruriers, parce qu'en fait, le Lean, c'est une démarche qui est faite par les gens du terrain, pour les gens du terrain. Et le principe du Lean, pour j'aurais peut-être pu commencer d'ailleurs par expliquer un peu le principe du Lean. C'est pour faire simple, c'est on va chercher les gaspillages, tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée quand on travaille. Pour donner deux exemples, un gaspillage dans un entrepôt, c'est voilà, j'ai besoin d'aller chercher un produit qui est rangé sur une palette. Devant, j'ai une palette qui me gêne. Je vais déplacer la palette qui me gêne. Je vais chercher mon produit. Je vais remettre la palette qui me gêne. Le déplacement aller-retour de la palette qui a gêné, ça c'est du gaspillage. Comment je m'organise pour l'éviter? Quand je suis sur un chantier, je suis sur quatrième étage sur un échafaudage et il me manque un outil. J'ai pas le bon outil. Je redescends les quatre étages. Je vais chercher la fourgonnette, mon outil, et je remonte. Ça c'est du gaspillage. Donc en fait, le principe du Lean, c'est vraiment comment je m'organise pour pouvoir être plus efficace, limiter ce gaspillage et finalement améliorer mon confort de travail. Donc c'est pas antinomique. Il faut le faire dans cet esprit d'ailleurs. Il faut que ce soit à la fois une amélioration de l'efficacité et une amélioration des conditions de travail. Et concernant la démarche RSE, bon, le RSE, ça devient un peu incontournable et inévitable. C'est juste indispensable. On le fait déjà depuis de nombreuses années. On fait par exemple du tri de quand on dépose dans toute une barre d'immeubles, toutes les menuiseries PVC, elles sont retriées aujourd'hui. Donc le PVC est réutilisé. On fait en termes de tri des déchets pas mal de choses, socialement pas mal de choses aussi. En termes de RSE, là on a démarré une démarche structurée où là on va passer par un bilan carbone et on va structurer une démarche avec un plan d'action et on va finir. On a pu identifier déjà ce qu'on avait réalisé et on l'a aussi formalisé. On a commencé à le formaliser.
Merci Xavier. Nous arrivons au terme de l'émission.
Merci.
Donc, merci à tous les trois d'avoir partagé votre actualité. On aurait pu faire une émission bien plus longue et je le déplore, il faudra que vous reveniez. Merci à Sabrina pour la technique. Merci à tous pour votre fidélité. Pour moi, c'est la dernière de la saison. Mais par contre, l'inusable Jacqueline Voraz continue sur l'économie en direct les mardis et vendredis. Donc n'hésitez pas à l'écouter dès demain matin. Et je vous dis à très bientôt.
Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.